Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce lundi 5 avril 2021. Vendredi 2 avril, la 18e réunion de la commission mixte du plan global d'action conjoint s'est tenue virtuellement. Lors de la réunion, les membres de l'accord nucléaire international ont dénoncé une nouvelle fois les dimensions catastrophiques du retrait américain de l'accord et ont insisté en effet sur la nécessité de préserver l'accord. Les parties présentes à cette réunion ont convenu de reprendre les négociations de la commission mixte du PGAC, plan global d'action conjoint, mardi, demain, pour déterminer les mesures censées en effet sauver l'accord. Ces évolutions interviennent au moment où la République islamique d'Iran a exclu toute négociation directe ou indirecte avec les États-Unis, comme d'ailleurs le laissent en effet entendre les responsables américains, et ont souligné que les États-Unis n'avaient qu'à réintégrer l'accord en respectant pleinement leurs engagements et en levant surtout toutes les sanctions imposées à la nation iranienne. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette réunion, sur en effet les négociations qui devraient avoir lieu demain dans le cadre de la commission mixte du PGAC, et sur le positionnement de part et d'autre au moment où les États-Unis, en effet, ont annoncé vouloir retourner à l'accord de Vienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé samedi soir qu'il avait contacté son homologue français, lui conseillant de prendre une position constructive à l'égard du PGAC, Plan Global d'Action Conjoint. Aujourd'hui, lors d'un entretien téléphonique avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, je lui ai demandé de faire preuve d'une position constructive à l'égard du PGAC, lors d'une prochaine réunion à Vienne, a tweeté le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif. J'ai exhorté la France à respecter ses obligations au titre de cet accord et à suspendre l'application des sanctions illégales imposées par les États-Unis. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré pour sa part qu'il s'était entretenu au téléphone avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif. Je me suis entretenu avec mon homologue iranien. J'ai salué la reprise à venir à Vienne de discussions sur le dossier nucléaire. J'ai souligné le rôle constructif joué par le trio européen afin de parvenir à la reprise de telles discussions dans la continuité des efforts déterminants conduits par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni pour préserver le PGAC depuis 2017, a déclaré le patron de la diplomatie française. À l'issue d'une réunion virtuelle avec les autres parties du PGAC, le ministre iranien des Affaires étrangères a écrit dans un rapport sur Twitter « Lors de la réunion virtuelle de la commission mixte Iran-Union européenne, trois pays européens, France, Allemagne, Royaume-Uni, ainsi que la Chine et la Russie ont convenu de reprendre les discussions en personne à Vienne mardi prochain. » Objectif, finaliser rapidement la levée des sanctions et les mesures nucléaires pour la suppression chorégraphiée de toutes les sanctions, suivies par l'Iran de cesser les mesures coercitives. Le département d'État américain a également annoncé qu'il participerait à une réunion mardi prochain à Vienne, en Autriche, pour discuter d'un retour bilatéral à l'accord nucléaire.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue. Et depuis Bruxelles, Monsieur Xavier Dupré, analyste politique. Monsieur Dupré, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Vous, bonjour.
Monsieur Dupré, alors de nouveau, l'accord international sur le nucléaire iranien est revenu au devant de la scène internationale, de l'actualité internationale. Il y a eu vendredi une réunion virtuelle et demain, en effet, les consultations, les négociations vont reprendre à Vienne dans le cadre de la commission mixte du plan global d'action conjoint. Qu'est-ce qu'il faudrait attendre, Monsieur Dupré, de cette réunion et des négociations qui vont avoir lieu?
Alors tout d'abord, sur le rythme des négociations et sur les mesures qui pourraient être prises, je crois qu'il ne faut pas s'attendre à une levée immédiate des sanctions. Du côté de la presse anglo-saxonne et des Américains, je lis ici sur dans la revue The Hill, « This is an important though preliminary step ». Donc on est vraiment dans quelque chose qui va être rythmé. Il y aura toujours de la part des Américains la tendance à vouloir obtenir quelque chose en échange de levée partielle de sanctions. Donc on est vraiment dans du préliminaire et du progressif. Cependant, je pense que l'on peut s'attendre à des retombées positives de ce retour au premier plan des accords de 2015 dans la mesure où les Occidentaux ont été placés le dos au mur par les Iraniens. Ce retour des accords de 2015, cette volonté d'en revenir aux accords de 2015, fait suite aux accords de coopération structurelle très profonds et de très long terme qui ont été conclus entre la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine. Les Occidentaux, aujourd'hui, ne peuvent plus... Le discours n'est plus le même chez les Américains. Ils savent qu'ils doivent revenir à terme et assez rapidement dans l'orbite des accords de 2015, sous peine d'être complètement déclassés par la Chine au prochain Moyen-Orient. Je m'en entretenais en parlant des aspects économiques de cet accord avec l'un de vos collègues, et je lui disais à quel point toute la presse économique occidentale parler d'un accord historique entre l'Iran et la Chine. Donc, j'ai presque envie de vous dire qu'à très court terme, en fait, l'élément positif, c'est que les négociations ont repris. Les États-Unis ne veulent plus de rapprochement informel, ne veulent plus étendre la portée des accords, ils veulent s'en tenir aux accords, disent-ils. Ça, c'est à court terme. Mais à moyen terme, les États-Unis n'auront sans doute plus, vu l'attitude cohérente et ferme de l'Iran, n'auront plus d'autre choix que de revenir aux accords. D'où l'importance de répéter aux États-Unis que le retour des accords ne dépend d'abord et fondamentalement d'eux, de lever ces sanctions qui ont été imposées non seulement unilatéralement, mais de manière complètement injuste à la République islamique d'Iran. Et de ce point de vue, ce qui se produit aujourd'hui, c'est simplement la chose suivante, c'est-à-dire que les Américains envoient l'Europe occidentale, hein, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, quelque part comme intermédiaire, parce qu'ils savent que la Chine est là, que d'autres accords, d'autres partenaires peuvent demain leur damer le pion dans le Golfe Persique et dans la région du prochain Moyen-Orient. Là, vraiment, il faut... Donc on peut s'attendre, en tout cas dans les mois qui viennent, à des levées de sanctions progressives et partielles, parce que les États-Unis sont, comme je le disais tout à l'heure, le dos au mur. C'est une réussite de la diplomatie iranienne.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur Dupré, restez avec nous. On va tout de suite se rendre à Toulouse pour rejoindre Monsieur le professeur Pierre d'Ortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Allô? Allô, Monsieur d'Ortiguier? Visiblement, nous avons un souci de liaison avec Monsieur le professeur d'Ortiguier. Monsieur d'Ortiguier, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends, Monsieur Codamandé.
Très bien,
oui.
Très bien. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, M. Dortiguier.
Avec grand plaisir.
Monsieur Dortiguier, Monsieur Dupré a expliqué justement ce qu'il faudrait attendre de cette réunion prévue demain entre les membres de la commission mixte du plan global d'action conjoint, accord nucléaire. Et pour vous, quelles seront les retombées à court et à moyen terme de cette reprise des négociations, tout en sachant que les États-Unis, bien entendu, ont déclaré vouloir participer à cette réunion, ont laissé entendre qu'il fallait de nouveaux pourparlers avec la République islamique d'Iran, bien sûr des pourparlers qui sont exclus par Téhéran, tout en sachant que, bien sûr, c'est le signe de l'échec de la stratégie de pression maximale de l'administration Trump. Donc, tout cela étant dit, alors quelles seront les retombées, justement, à court et à moyen terme de cette reprise des négociations sur le nucléaire iranien, sur l'accord en effet nucléaire prévu demain à Vienne, monsieur le professeur?
Tout est question. Je me permets de répondre en saluant la présence de monsieur Dupré. Je dirais que cette reprise des négociations, en réalité, ne repose pas sur une franchise. Elle est en effet formellement, elle est un pas important. Elle est, disons, évidemment, un échec, peut-on dire, de la pression maximale dont vous parlez. Mais je note que l'attitude des États-Unis, comme celle d'ailleurs des Européens, consiste à dire qu'en principe, ils sont pour une reprise des négociations, mais qu'en réalité, ils veulent que l'Iran ouvre davantage le champ des négociations pour y inclure justement la permanence d'une observation, d'une pression exercée sur lui, comme si on devait le traiter comme un État mineur. C'est-à-dire qu'il reste toujours un suspect, voyez-vous, qui doit rendre des comptes et par là même, diminuer sa propre autorité à l'intérieur du pays. Voilà comment je verrais, disons, l'atmosphère. Cette atmosphère, disons, elle n'est pas saine de point de vue politique, elle n'est pas saine, je dirais, purement et simplement. Monsieur Macron, enfin je cite notre président, mais c'est le cas également de l'Union européenne, veulent toujours obtenir de l'Iran des concessions, mais pas des concessions sur le plan de l'armement atomique, mais sur sa production, voyez-vous, sa production atomique pacifique. Et donc, en réalité, l'encrier, c'est cela qui est à observer. Je dirais du reste que même sous l'ancien régime du Shah, il faut bien le dire, il y avait des méfiances exercées par les États-Unis. Je prends l'exemple de la presse, je crois que c'était le New York Times ou le New York Herald Tribune à l'époque, je crois que c'était le New York Times, oui, qui lui-même s'était prononcé contre les projets atomiques de l'État iranien. Alors, ceci donc est une permanence qui n'a rien à voir, qui est, si je puis dire, au-delà des régimes politiques, mais qui touche, disons, le développement de l'Iran. C'est une sorte d'atmosphère, à mon avis, qui n'est pas du tout claire, atmosphère qui est malsaine. Et je dirais que je ne crois pas, pour ma part, que ces bonnes intentions de la part des Occidentaux, pour donner un titre générique, puissent aboutir. Parce qu'il y a trop de forces qui ont intérêt, disons, à présenter cette situation de négociation comme étant toujours au bord de l'échec. C'est-à-dire, on annonce, voyez-vous, et ensuite, cet échec est mis sur le compte de l'Iran. Donc, il s'agit là d'une pression, disons, d'une sorte de persécution, si je puis me permettre le mot, et qui devrait aboutir certainement un jour à des positions beaucoup plus énergiques de l'Iran, et certainement venant aussi de la Russie, de la Chine, peut-être, disons. Mais de la part des Occidentaux, je n'ai pas de confiance, disons, dans la sincérité des intentions.
Merci pour ces précisions, monsieur le professeur. Monsieur Dupré, alors les États-Unis ont quitté, se sont retirés de l'accord nucléaire de façon unilatérale et illégale en 2018. Et s'il y a en effet une volonté de la part des Américains de respecter leurs engagements, pourquoi il exige en effet des négociations avec la République islamique d'Iran? Et puis, alors, sur quoi les Américains voudraient aujourd'hui négocier sur un accord nucléaire qui, pour la République islamique d'Iran, est, en effet, n'est pas négociable, d'autant plus que cet accord a été, en effet, confirmé, approuvé, validé par le Conseil, par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU.
Alors, je crois qu'il faut comprendre, mais c'est vrai que la position américaine n'est pas claire, je suis d'accord avec le professeur d'Ortiguier. Et il faut se rendre compte que globalement, vous êtes ici dans une configuration où les démocrates étant de retour au pouvoir, ils tentent une percée pour obtenir quelque chose de la part de l'Iran, en, passez-moi l'expression, mais en tordant le sens des négociations et des accords. Mais on sait tous que si des républicains, et peut-être singulièrement si Donald Trump était à nouveau président d'ici 4 ans, on serait à nouveau de retour dans un schéma de fonction. Bon, ça c'est très clair. Dans ce contexte-là, on voit bien que les Américains veulent obtenir une négociation en face-à-face, bilatérale, pour effectivement élargir les termes du PGAC, de l'accord de 2015, notamment aux activités balistiques de l'Iran, à son soutien à divers mouvements de libération dans la région. Ça, ça se sent très fort. Maintenant, le fait d'avoir refusé de la part de l'Iran des négociations indirectes il y a quelques mois, donc tout à fait informelles, et d'entrer dans un schéma où il y a quand même deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont garants de l'accord de sa portée, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Cela permet en tout cas d'augurer que les Américains n'obtiendront pas tout ce qu'ils voudront et qu'il y a aujourd'hui un début de structuration de la communauté internationale pour éviter d'aller, que les États-Unis n'aillent trop loin. Je répète aussi que les États-Unis, je me rappelle de documents qui avaient été écrits en 2001, pointaient déjà la Chine comme étant le peer competitor, leur père qui leur fera concurrence. Donc ils ont une vision de très long terme des relations internationales. Ils savent que s'ils tardent trop, ou que s'ils font, faisaient trop de difficultés, ils seraient vraiment remplacés dans la région, en tout cas en grande partie, dans une bonne partie de la région. L'Iran est quand même un poids lourd, incontournable au prochain Moyen-Orient, il serait remplacé par les Russes et les Chinois. Il perdrait énormément d'influence de la région. Donc je pense que globalement, les États-Unis sont dans une phase de négociation où ils tentent, dans le premier mouvement, d'essayer de maximiser leur avantage, un peu comme le joueur qui, aux cartes, bluffe, parce qu'il sait qu'il n'a pas vraiment de très bonnes cartes dans son jeu et qu'à un moment donné, il va devoir abandonner une partie de ses prétentions. C'est typique, c'est la théorie des jeux. C'est assez mathématique quand on n'a pas beaucoup de jeux en main, mais qu'on avait un avantage auparavant, lors d'un tour précédent, eh bien, on bluffe pour tenter d'obtenir quelque chose. Et si en face de soi, et ça a été le cas jusqu'à présent, il n'y a pas de raison que ça change, on a en face de soi un partenaire qui est cohérent, qui connaît son jeu et qui est ferme, ce qui a toujours été le cas de la République islamique d'Iran jusqu'à présent, et de sa diplomatie, en règle générale, ce mouvement de bluff finit par se dégonfler. Maintenant, sur le très très long terme, l'avenir de l'Iran ne passera sans doute plus aussi, de manière aussi décisive par ce que l'on appelle de manière générique les Occidentaux. Il suffirait, je le répète, que les Républicains gagnent les prochaines élections présidentielles pour qu'une fois de plus, tout soit remis en cause. Les États-Unis font dépendre de leur situation politique intérieure un grand nombre de partenaires internationaux et il est clair que cela crée un climat malsain, ça instaure un climat malsain dans les relations avec ce pays. Ça, c'est une évidence.
Merci encore, M. Dupré. M. d'Ortiguier, donc face à l'attitude cohérente et ferme de la République islamique d'Iran, comme l'a rappelé M. Dupré,
oui.
Les Américains sont en quelque sorte au pied du mur. Donc, ils veulent participer à ces négociations sur le nucléaire iranien pour pouvoir obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils chercheraient à obtenir par le biais de ces négociations? Une première question. Et une seconde, quel rôle veulent ou peuvent jouer les Européens, en l'occurrence la France, dans l'état actuel des choses.
Ce que les États-Unis cherchent à obtenir, et des puissances, disons, qui sont actives à l'intérieur des États-Unis, c'est la même chose, bien sûr, poussent l'administration à obtenir, c'est de contrôler l'armement de l'Iran, le mesurer, le paralyser, en fait, que ce soit, comme l'a rappelé M. Dupré, dans l'armement balistique et autres, et ceci pour des buts qui sont tout à fait particuliers, ceux de la défense de l'entité sioniste. Je ne vois pas la diminution, bien sûr, de l'influence, de la diminution de la résistance qui est opposée en Syrie, etc. Et au Liban. Je crois que c'est un point que les États-Unis, veulent obtenir. Enfin, c'est un point qui leur est, demandé, par des forces financières et autres, qui les dirigent, qui ont réussi, dans le jeu politique américain, à se rendre, nécessaire à chacune des factions. Voilà, pour dire les choses clairement. C'est un point de vue, c'est réaliste, mais c'est comme l'a dit M. Dupré avec l'image, du bluff des cartes, ceci marche contre le temps. Parce que, l'Iran n'est pas comme autrefois isolé. L'Iran, était aspiré, si je puis dire, par le développement économique, financier, etc., de cette région de l'Orient, ce qu'on appelle la route de la soie ou autre. Mais j'entends parler des pays turcs, par exemple, des Turkmènes et autres. Tout ceci, bien sûr, modifie cette stratégie américaine. Et donc, je crois que celle-ci est, il faut reconnaître, est bornée dans le temps. Quant aux Occidentaux, malheureusement, nous avons la France, par exemple, qui autrefois était l'expression politique libre de l'Europe, puisque l'Allemagne, depuis la fin de la guerre, chacun, et c'est une évidence, n'a pas l'indépendance politique, est obligé de suivre. C'est un géant économique, comme on dit, et un nain politique. Ce n'est pas caricatural, je crois que c'est une formule constante, Et alors, la France, malheureusement, a une faiblesse économique financière qui s'accroît avec ces questions de sanitaire et autres. Enfin, qu'il ne lui permet plus aujourd'hui de parler, de façon relativement indépendante, comme cela avait été le cas avec nos anciennes présidences, Et alors là, c'est pour ça que nous voyons, au contraire, malheureusement, un déclin de l'Europe dans ce domaine-là, et certainement, peut-être, une sorte de, je n'ose pas dire de rapprochement, mais je terminerai là-dessus, ce qui gênerait beaucoup la France, ce serait peut-être un rapprochement de fait, entre la Russie, les pays de l'Est et ces pays de l'Est européens, enfin, entre la zone allemande et la zone russe, pour dire les choses en deux mots. Et je crois que là-dessus, la France est de moins en moins dans la capacité, de jouer le rôle européen qu'elle avait jusqu'à présent. Ce rôle, voyez-vous, d'orateur indépendant, si je peux dire. Voilà. C'était limité, du reste, mais enfin, nous l'avions quand même de façon nette. Mais même si ce n'était pas, même si c'était fragile, nous avons des retours en arrière, autres. Mais je crois que l'Iran est amené, c'est ma conclusion, à compter sur les appuis justement chinois et les appuis russes. Bien sûr, on peut le regretter, mais ça, c'est l'Europe, voyez-vous, est absente depuis la fin du second conflit mondial, et donc nous en payons les conséquences.
Monsieur le professeur Pierre Dortillet, philosophe et politologue français depuis Toulouse, Xavier Dupré, analyste politique depuis Bruxelles, je vous remercie infiniment d'avoir voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.